Venez, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Histoire qui nous conduiront, au fil des mois, à travers le Sud. Notre Sud, ce pays où il fait souvent si bon vivre, entre l'Atlantique et la Méditerranée, entre les Pyrénées et une ligne vague, qui se situe au nord de l'Aubrac, mais pas trop au nord quand même, il faut pas exagérer. Chacune d'elles aura un thème et, cette fois-ci, nous allons partir sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, tout au bout de ce chemin, au Cabo Fisterra. Cabo Fisterra, une nouvelle écrite et lue par Bernard Bonne. Souvent, quand on parle de lui, on dit « le chemin » avec un C majuscule. Mais vous savez comme moi que ce chemin se divise à l'infini, qu'il s'étire de cols en vallées, de plaines en plateaux et qu'il dessine, à sa façon, la trame intime du sud-ouest de la France. Toutes et tous, un jour ou l'autre, sur de longs trajets ou juste par hasard, nous avons emprunté un des sentiers qui le composent. Certains le connaissent bien, d'autres n'en ont qu'une idée vague, mais on sait qu'il est là, sous nos pieds, dans nos cœurs ou dans notre mémoire. Pourtant, bien des gens imaginent qu'il s'arrête dans la ville de Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne. Mais ce n'est pas le cas. Même si cette ville est le but symbolique, le lieu spirituel vers lequel les marcheurs convergent, la vraie fin du voyage, se situe un peu plus à l'ouest, au Cabo Fisterra, le cap de la fin de la terre, comme l'avaient décrit les envahisseurs romains il y a plus de 20 siècles. Le nom du lieu est mérité. Quand on le découvre, avec ses amas de granit battus par l'océan Atlantique et la gigantesque étendue d'eau qui l'enserre, on ne peut s'empêcher de penser que, oui, on est bel et bien arrivé au bout du monde. C'est là que se situe la vraie fin du voyage pour les pèlerins. Ils y brûlent symboliquement leurs vêtements et leurs chaussures de marche, puis repartent chez eux. Un de mes amis, Francis, a vécu une drôle d'histoire là-bas, et c'est cette histoire que je vais vous raconter.
Marcher à côté de ses pieds, pris à l'envers les ronds-points pour partir loin. Il s'est bien trop cogné au mur de ses idées, tournant toutes ses évasions en dérision. Mais pourquoi prendre ce chemin dont on sait qu'il ne mène à rien? Mais parce que c'est écrit en bas, en tout petit. Il a regardé en arrière, vu ce dont il était fier. Oublier toutes ces erreurs, celles qui font peur. Et quand il s'est retourné, jetant un œil sur son passé, il n'y avait plus rien, ni cailloux, ni miettes de pain. Mais pourquoi prendre ce chemin dont on sait qu'il ne mène à rien? Mais parce que c'est écrit en bas, en tout petit. Alors il s'est endormi, couché en chien de fusil, au bord de ce chemin dont on ne voit pas la fin. Et le vent s'est levé d'un coup, par-dessus et par-dessous, ne laissant sous le buisson que cette chanson.
Francis, c'est un de ces copains dont on hérite à l'enfance, sur les bancs de l'école primaire, et qu'on garde pour toujours. Ça ne s'explique pas, ça ne se commande pas, c'est juste un cadeau que la vie vous fait et qu'il faut accepter avec reconnaissance. On arrivait aux alentours de la cinquantaine, lui et moi, quand les choses ont commencé à se compliquer pour l'ami Francis. Divorce, galères diverses et variées, les enfants qui s'éloignent, les parents qui meurent et une solitude majuscule qui vous tombe dessus et qui s'installe, qui dure. Francis n'était pas fait pour la solitude et il la vivait mal. Avec d'autres potes, on lui avait conseillé de partir en voyage et finalement, après une molle résistance, il avait décidé de partir en Espagne parce que d'abord, c'était pas loin et parce qu'en plus, on y mangeait super bien pour pas trop cher. Il n'avait pas d'idées arrêtées sur son itinéraire et il voulait juste partir au hasard et suivre le vent de ses envies. Il vagabonda 4 semaines vers la fin septembre et quand il rentra, sa première visite fut pour moi. Je vis qu'il avait changé, en bien. On voyait qu'il allait mieux. Sa longue carcasse s'était détendue et je retrouvais avec plaisir les notes moqueuses et gaies de son regard. Comme on s'installait pour prendre l'apéritif, il me dit, sans que je lui pose la moindre question, « Il m'est arrivé un drôle de truc. » « En Espagne ?»« Ouais, au Cabo Fisterra. »« Tu connais ?»« Oui, c'est en Galice, à l'ouest de Santiago. »« C'est ça. » »« Tu vois, j'étais dans le coin, et puis je me suis souvenu que, quand j'étais gamin, on avait poussé jusque-là, en camping-car avec mes parents et ma sœur. Je m'en souvenais mal, mais je savais que ça m'avait plu. Alors j'y suis allé. » Quand je suis arrivé, l'océan était complètement démonté. Un vent pas possible et des bourrasques de pluie qui te tombaient dessus comme des seaux d'eau. Je me suis avancé le plus possible en voiture. Je voulais juste voir et pas descendre. Et là, qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Au milieu des rochers, avec une paire de chaussures à la main, une femme. Le vent la secouait tellement qu'elle tenait à peine debout. Alors je suis sorti. Bien sûr, et je lui ai demandé si tout allait bien. Enfin, j'ai plutôt hurlé, parce que le raffut du vent était si énorme qu'on ne pouvait pas faire autrement. « Ça va ?» je lui crie, 2 fois, 3 fois. Elle finit par m'entendre, elle me regarde et elle me dit « Oui, oui, en souriant. » Alors je crie « C'est dangereux, remontez, vous allez tomber. » « Non, il faut que je brûle mes chaussures, » qu'elle me répond. « Ah !» Elle avait fait le pèlerinage jusqu'au bout. Oui, mais avec la pluie et le vent, tu parles. Impossible d'allumer un feu. J'essaye de lui faire comprendre, toujours en hurlant. Elle continue de me sourire, mais à la fin, elle remonte et tout de suite, je lui dis de venir dans ma voiture se mettre à l'abri.
Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un. Volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'où ira de le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis
contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, hardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi.
Francis me raconta ensuite qu'il avait reconduit l'inconnu à son hôtel, dans un village près du Cap, et qu'ils avaient lié connaissance. Elle s'appelait Clotilde. Ils s'étaient mis à discuter autour d'un café con leche et elle lui avait demandé si c'était la première fois qu'il venait jusqu'au Cabo Fisterra. « Non, c'est la seconde fois », avait-il répondu. « Moi, dit Clotilde, c'est la troisième fois. Vous savez ce qu'on dit de cet endroit ?»«
Non. »«
Eh bien, on dit qu'on n'y vient jamais ou bien qu'on y vient trois fois. La première fois pour voir, la deuxième pour revoir et la troisième pour savoir. »«
Pour savoir quoi ?»
Ça dépend des gens, bien sûr. Et on ne le sait que quand on arrive au Cap. Inutile d'y penser avant. Et vous, puisque c'est la troisième fois, vous savez quoi de plus maintenant? En arrivant, je voulais brûler cette paire de chaussures. Elle ne les avait pas lâchées et les tenait sur ses genoux. Mais maintenant, je sais que je vais vous les donner.
Me les donner?
Et pourquoi? J'ai pas besoin de chaussures et c'est pas ma pointure, c'est sûr. Je vais vous les donner pour que vous me les rameniez l'an prochain. Même jour, même heure, même endroit. On les brûlera ensemble s'il fait beau.
Vous n'êtes pas sérieuse.
Je donne sans doute l'impression d'être un peu... comment dire? Faux-folle. Ou trop spontanée. Trop directe. Mais je fais tout sérieusement. Voilà les chaussures. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Et Francis était rentré avec la paire de chaussures qu'il me montra avec une expression de profonde perplexité.
« Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» je lui ai demandé.
« Je sais pas, mais j'ai drôlement envie de la revoir. »
Si longtemps tu attends ce qui ne vient jamais. Chasseur d'ombre, chasseur de fantômes. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, vis-le. Le temps t'échappe, le temps court, le temps s'enfuit. La chance apparaît, puis disparaît. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Tout de suite, dans l'instant, depuis toujours, tu ne sais qu'espérer. La vie, c'est demain, demain, c'est loin. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu dois.
Thank you.
vent puissant qui te porte. Laisse-le t'emmener vers ton désir. Tu es la route, la poussière, le plaisir. Ce que tu veux vivre, tu le vis.
À compter de ce jour, l'ami Francis changea du tout au tout. Lui, qui était plutôt du genre apéritif et barbecue, et qui gardait de ses années de rugby un goût prononcé pour les troisièmes mi-temps, les deux premières mi-temps, elles, n'existaient plus depuis belle lurette, Francis, donc, se mit à marcher sur les chemins qui entouraient son village. Peu à peu, il fit des sorties de plus en plus longues. S'aventura sur des coteaux de plus en plus escarpés entre La Trappe et Rieux-Volvestre. Il s'équipa, acheta des chaussures haut de gamme, des vêtements qui résistaient au chaud, au froid, à la pluie, au vent et même aux marées, comme il disait en rigolant. Quand je me rendais chez lui, je voyais toujours les chaussures que lui avait données Clotilde qui trônaient dans l'entrée de sa maison. On ne pouvait pas les rater. Plusieurs fois, je lui avais demandé s'il avait eu des nouvelles de cette Clotilde, mais il me répondit que non, qu'il n'avait pas besoin d'en avoir. Il savait où et quand il la retrouverait, et ça lui suffisait. À la fin de l'année qui suivit son retour d'Espagne, entre Noël et le jour de l'an, il partit faire une longue randonnée dans les Pyrénées. D'habitude, cette semaine-là, on se retrouvait avec lui et avec quelques potes pour refaire le monde dans un chalet ariégeois, et on lui redonnait les couleurs de la jeunesse. Notre régime n'avait rien de vegan. L'absence de Francis nous troubla et nous en éprouvâmes une vague tristesse, mais, par ailleurs, nous comprenions bien que notre ami était en train de se reconstruire, de se trouver une voie, pas à pas, c'était le cas de le dire, alors, dans le fond, nous étions heureux pour lui. Il passa tout l'hiver à sillonner les sentiers, en particulier du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port et de Roncevaux, à monter, à descendre, à s'envoyer des dénivelés de plus en plus significatifs. Comme il faisait tout ça avec méthode, patience et application, il triomphait de toutes les difficultés et il faisait l'admiration de tous les copains de la bande. Quand arriva le printemps, il était affûté comme un laguiole.
Laissez-les dans les cartons, les plans de la planète. Faites-les sans moi, oubliez pas les fleurs. Quand ces rétroviseurs-là passent par la tête, j'ai du feu sur le gaz et je m'attends ailleurs. Je fais que passer ma route. Pas vu celle tracée. Passer entre les gouttes. Et va des belles. Parole après parole, note après note, elle voulait tout savoir sur ma vie. j'ai tourné cette fois ma clé dans ses menottes. Cette fois ma langue dans sa bouche et j'ai dit je fais que passer ma route. Pas vu celle tracée. Passer entre les gouttes, Eva t'es belle.
Vers le début de l'été, Francis vint me voir pour dire qu'il avait posé un congé sans solde de 4 mois et qu'il allait partir sur le chemin de Saint-Jacques. Cela ne me surprit pas, cela ne surprit personne. Pour blaguer, je lui dis « Tu pourrais y revenir en voiture comme l'an dernier. Tu planques la voiture à 10 km du Cabo Fisterra et tu finis à pied. Elle y verra que du feu. » Il fit non de la tête avec un sérieux qui ne lui ressemblait pas et dit « Tu sais, c'est pas juste avec elle que j'ai rendez-vous. C'est aussi avec moi. Tu comprends ?»« Je crois. Et il y a des rendez-vous où il faut aller à pied. Tu comprends aussi ?»« Oui, bien sûr. Et si jamais elle, Clotilde, je veux dire, elle est pas là le jour dit à l'heure dite, eh ben tu vois, ça m'étonnerait !» s'exclama Francis. « Ça m'étonnerait beaucoup !» Le jour de son départ, avec tous les copains, on l'escorta pendant quelques kilomètres. On le chambra gentiment avec des blagues de vieux potaches. « Fais gaffe aux crevaisons, respecte les limitations de vitesse et tout ça. » Mais dans le fond, on crevait d'envie d'être à sa place. Il nous envoya des nouvelles régulièrement. Et quand il arriva à Roncevaux, une fois passé les Pyrénées, on alla le retrouver pour passer une journée avec lui. Avant de le quitter, j'exigeai de lui qu'il me donne des nouvelles quand il serait arrivé au Cabo Fisterra. « Tu me diras si elle est venue, hein ? Et si elle n'est pas là, tu fais pas de conneries. Tu appelles et je viens te chercher. »« Arrête !» me répondit-il en rigolant. Mais il était ému. « Arrête ! Je vais pas te faire le courrier du cœur. »« Tu m'as compris, Francis. Allez, va. Casse-toi. Tu vas être en retard. » Et nous nous séparâmes sur ces mots. Une fois rentrés chez nous, avec les copains, pendant les semaines qui suivirent, On se réunit tous les soirs pour suivre, sur une carte du nord de l'Espagne, le chemin tracé par Francis. À l'heure de l'apéro, on s'amusait à piquer de minuscules drapeaux pile sur le nom du lieu où nous pensions qu'il passerait la nuit. Puis vint le jour du rendez-vous. J'avoue que la nuit précédente, je dormis mal. Puis la journée passa et arriva l'instant où, si les génies de la route étaient avec Francis, ils retrouveraient Clotilde. Une heure passa, puis deux. Puis arriva un message sur mon mobile. Un message avec une photo qui représentait trois paires de chaussures de marche qui brûlaient. Le SMS disait « Tu ne devineras jamais à qui sont ces chaussures. » Ce à quoi je répondis « Et tu vas rentrer comment maintenant ?»« On va se débrouiller !» fut sa laconique réponse, ce à quoi il ajouta quelques instants plus tard « À deux, on marche mieux. » Maintenant, à l'heure où je vous parle, ils sont sur le chemin. Celui-là ressemble un peu au chemin des écoliers et nous attendons Clotilde et Francis sans impatience pour leur laisser le temps de profiter de la vie.
Je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Je sais qu'il faudra faire encore des détours et voir passer encore des jours et des jours. Mais sans que rien ne vienne éteindre notre hâte, il pleut chez moi, chez toi, le soleil est de plomb. Quand pourrons-nous enfin marier nos saisons? Quand pourrons-nous rentrer ensemble à la maison? Nous avons le temps, mais pourquoi est-ce si long? Mes habits ont parfois des traces de poussière et le parfum fané des amours passagères qui m'ont rendu la solitude plus légère. À l'aube de mes nuits blanches et solitaires, et toi mon bel amour, dis-moi s'il y a des hommes qui t'ont rendu la vie un peu moins monotone, qui t'aident à supporter l'hiver après l'automne et les silences obstinés du téléphone. Nous nous raconterons nos triomphes, nos fêtes, mais comment s'avouer toutes nos défaites? L'angoisse qui nous tient, l'angoisse qui nous guette et s'accroche à chaque pensée, à chaque geste. Je sais que tu seras au bout de mes voyages, je sais que tu viendras malgré tous les détours. Nous dormirons ensemble et nous ferons l'amour dans un monde réinventé.
À notre image.